compte pour un acteur, c'est la personnalité, sa présence.
Franchement, ma chère, c'est le cadet de mes soucis.
Je m'appelle Berlin Noël et j'aime bien les yens.
Come on, guy. We'll be sweet with me.
C'est tellement intéressant de voir la réaction des spectateurs à qui on peut déplaire. J'aime bien frôler les catastrophes.
Mais vous savez, moi je ne crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
On a tout vu.
Allez, action!
Action, pourquoi faire?
Essentiel, il l'était comme l'art qu'il défendait, le cinéma. Bertrand Tavernier est parti avant-hier, gardien et habitant d'un temple sacré, cinéaste et cinéphile, près de 30 films réalisés et des milliers d'autres dans son parcours amoureux de spectateurs. Nous l'avons souvent reçu à ce micro, nous l'aimions. Bonjour tout le monde et salut Laurent.
Bonjour Christine, bienvenue à toutes et à tous.
Passion, érudition, transmission, la sainte trinité du cinéphile, Bertrand Tavernier la possédait passionnément, un concentré de bienveillance, d'emportement et d'admiration, sensible au-delà du cinéma, à la littérature, au jazz, à l'histoire, aux injustices de tous bords qu'il dénonçait. Sa voix, sa faconde, son rire, ses anecdotes nous manqueront, reste ses films, ses docs, ses ouvrages. Nous ouvrirons cette heure avec lui. Et puis nous poursuivrons notre chemin, thème du jour, le cinéma et ses icônes, revues et corrigées par la mode. Bonjour Loïc Prigent.
Bonjour.
Journaliste, documentariste, producteur et surtout observateur pertinent, pétillant, piquant, de ces gens amusants, dites-vous, qui créent de belles choses. La mode qui regarde les films et s'en inspire sur les podiums. Nous vous retrouvons, Loïc, après cet hommage à l'homme et au cinéaste qu'il était, Bertrand Tavernier.
Un film, c'est quelque chose de tellement fort que ça vit en vous et quelquefois, le film bouge. Le film dont vous vous souvenez, c'est pas tout à fait le film que vous avez vu, mais un livre aussi. Un livre aussi, et c'est souvent aussi passionnant de redécouvrir. Ça n'est pas une frustration, c'est quelquefois une confirmation que vous aviez senti quelque chose de fort, mais que vous n'aviez pas trouvé totalement le moyen de le cerner.
Découvrir et redécouvrir le cinéma jusqu'au bout. Bertrand Tavernier, cinéaste, aura aussi été cet insatiable spectateur. Aimer, défendre, réhabiliter parfois, admirer comme une brute. Bertrand, dit Martin Scorsese, était tellement passionné qu'il pouvait vous mettre KO, Laurent.
Oui, pourquoi le cacher? Pourquoi à chaque fois que nous avons invité ici même Bertrand Tavernier, vous étiez très nombreux à nous dire votre satisfaction et votre plaisir. Que voulez-vous, et n'en déplaise aux tristes figures, cet homme-là, on avait plaisir à l'écouter parler de sa passion cinéma. On avait l'impression d'être emporté dans un torrent d'images et de films dont on sortirait peut-être épuisé, mais paradoxalement jamais repu. Bertrand Tavernier avait sans cesse en lui cette dose d'humanité indispensable pour que le miracle de l'empathie ait lieu. Avec en prime une incroyable aptitude à l'enthousiasme que seuls les imbéciles peuvent confondre avec l'aveuglement. Je crois que c'est exactement ce qui se passe dans le dialogue que l'on va entendre entre Jean Rochefort et Philippe Noiret, alors le double de cinéma de Tavernier, dans ce qui fut son premier film, son coup d'essai, son coup de maître, L'horloger de Saint-Paul.
Ma femme était partie depuis 3 mois. On était en plein hiver, il faisait très très froid. Et tout d'un coup, un petit garçon s'est approché de moi, il m'a regardé et m'a dit « Est-ce que vous avez changé ?» Puis il est reparti tout de suite. Il n'avait sans doute rien d'autre à me dire. Je ne le connaissais pas, je ne l'avais jamais vu. Je ne savais même pas si c'était une fille ou un garçon, parce qu'il était tout en mitouflé. Et je lui ai couru après pour lui demander. Il m'a dit un garçon. Il avait l'air tout étonné de ma question. Faut dire qu'elle était belle.
Non, non. D'une fille, c'était plus blessant et d'un garçon, plus méchant. Moi, une fois, j'étais assis dans le trolley, j'avais en face de moi un gamin de 5-6 ans avec sa mère et il dit en regardant sa mère, « Maman, il sent mauvais, monsieur. » Bon, c'était mon mot de colonne, bien sûr, mais c'est tout de même très gênant. Vous avez eu affaire à un garçon méchant, voilà.
Non, j'ai pas vu de la méchanceté, moi. Mais non, j'étais très heureux. J'étais très heureux qu'un garçon, un petit garçon, traverse une allée pour venir me dire ce que vous avez changé. C'est extraordinaire, ça. C'est pas de la méchanceté, ça. C'est le contraire, voyons. Un petit garçon qui vient tout seul...
C'est du culot.
Mais non, qui vient tout seul vous dire quelque chose qui l'a étonné et qui peut pas garder pour lui. Enfin, Ah, je crois que personne ne m'a jamais aimé comme ce petit garçon. Même si ça a duré qu'une minute.
Et le plus étonnant, c'est que cette passion s'épanouissait d'abord et avant tout dans un humour et une malice à nul autre pareil. Le rire de Bertrand Tavernier était ni plus ni moins que le rire d'un enfant joyeux, espiègle et pour tout dire irrévérencieux. En digne héritier de Prévert, à qui son premier film était d'ailleurs dédié, il adorait écrire des rôles de crétins habillés en soldats, même dans le douloureux « La vie est rien d'autre », tout au long duquel l'impeccable François Perrault cherche le soldat inconnu idéal. Mais c'est dans un autre film, son drôle de drame à lui, son buffet froid à lui, qu'il a le plus laissé exploser cette veine drôlatique. Et ce film, où l'on retrouve Noiret, mais cette fois avec Marielle, ben c'est coup de torchon.
Est-ce que tu connais la question à laquelle personne n'a jamais répondu ? La grande question.
Dis toujours.
Quand on se gratte les couilles, à partir de quel moment est-ce qu'on le fait parce que ça vous démange ou parce que ça vous fait plaisir ?
Je viens de vivre des heures épuisantes. Je me suis fait traiter de fantôme toute la journée, j'ai bu un litre de ratafia, j'ai entendu des choses, je ne sais même pas si je les ai vraiment entendues. Mais je ne regrette pas. Je connais l'assassin de mon frère.
Ah bon ? Qui c'est ?
Mais c'est toi qui me l'as dit.
Ah ben ça m'est sorti de la tête ce que je t'ai dit. Ça te ferait rien de me le redire ? Non, ben peu importe ce que je t'ai dit, ce qui compte c'est ce que je t'ai pas dit.
Mais qu'est-ce que tu ne m'as pas dit ?
Ton frère et son copain, je les ai vus tous les deux bien vivants le lendemain du crime.
Sérieux ou non, tout chez Bertrand Tavernier est au service du cinéma. Ce spectacle qui le rattache à son enfance lyonnaise et aux Nuits de la Libération. Son premier métier aura été d'être attaché de presse de cinéma et sa dernière œuvre, un magnifique et bouleversant voyage au sein du cinéma français, travail documentaire essentiel pour qui veut comprendre comment une nation est désormais aussi faite de et par ses films. Et pour dire cette passion du 7e art, il y eut aussi un film de fiction pas forcément le plus connu, le plus cité, mais qui constitue pourtant son discours de la méthode cinématographique à lui. Faire des films malgré tout, et comment ne pas penser à ce qui se passe aujourd'hui ? C'est bien le propos de ce scénario qui met Jacques Gamblin en majesté dans le rôle d'un écrivain de cinéma qui a bel et bien existé, Jean Devèvre. C'est lui, le héros de Laissez-passer.
Clouseau me propose un boulot. Orange devait adapter une nouvelle de Nerval. La main enchantée, il renonce. Clouseau est d'accord pour me mettre sur le coup. Le tourneur cherche un assistant, je vais parler de toi.
Clouseau, mais c'est la Continentale, Clouseau. La Continentale, c'est les Allemands.
Ben justement, quand t'es dans la gueule du loup, entre les dents, il peut plus te mordre. Même la police française est coincée. Interdiction d'enquêter à la Continentale. 50% d'emmerde en moins.
Ouais, reste les 50 autres. Je veux réfléchir.
Ben, fais vite, je t'appelle demain.
Ouais, ou moi.
Ouais, non, moi tu peux pas, hein, j'ai déménagé.
Quoi, encore ?
Les Bretons sont des grands voyageurs.
C'est peu dire que le regard de Bertrand Tavernier va nous manquer, tout comme son inébranlable capacité d'indignation. À l'heure du désengagement de tel canal ou des tentations impériales inflexibles, c'est pour le moins inquiétant. On aimerait être certain que le flambeau Tavernier ne s'éteindra pas. En attendant, on peut toujours retrouver Noiret dans un bouchon lyonnais, Romy Schneider dans la préfiguration de la télé-réalité ou Thierry Lhermitte dans les habits d'un ministre des Affaires étrangères, adepte du coup d'éclat permanent. Car oui, ce qui ressort de la filmographie de ce cinéaste cinéphile, c'est un éventail largement ouvert qu'il faisait s'intéresser à l'histoire de France aussi bien qu'à un fait divers sanglant, aux questions d'éducation aussi bien qu'à la vie quotidienne d'un commissariat parisien. S'entourant de scénaristes chevronnés, il aimait raconter des histoires dont il savait que chaque personnage en était une d'histoire. En cela, il est peut-être le chaînon manquant entre la nouvelle vague et celle d'avant, maintenant que les plaies se sont refermées. Sans y toucher, il aura permis à la vieille maison de ne pas sombrer dans l'oubli, tout en donnant au cinéma de son temps des films d'une belle pertinence.
Merci Laurent. Un dernier témoignage sur Bertrand Tavernier, celui de la réalisatrice Emmanuelle Berco. C'était à Lyon au Festival Lumière en 2016, à notre micro.
Sur la générosité de Bertrand Tavernier, moi je dois dire que déjà il va voir, il connaît tout le cinéma, mais il continue à aller au cinéma. Je sais qu'il va voir, je suis sûrement pas la seule dans ce cas-là, mais il va voir tous mes films et après il prend le temps de m'écrire des mails sublimes sur mon travail. C'est fantastique la générosité de cet homme. Il a une générosité que je pense c'est un peu perdue dans la génération suivante.
Oui, c'est vrai que moi, quand j'ai fait mon premier film, ce qui m'a énormément touché, c'est qu'une des premiers mots que j'ai reçus, c'est de Michel Deville. Et donc, c'est quelqu'un qui vient avant moi et que, tout d'un coup qui prend le temps, et ça m'a marqué.
C'est la reconnaissance des pères, oui, mais Bertrand, par exemple, quand il le fait, il ne se place pas comme supérieur, ouais. et il s'exprime en tant que spectateur et amoureux fou du cinéma, d'où la valeur de ce qu'il peut écrire.
C'était Bertrand Tavernier, 1941-2021. On le retrouvera dans le grand atelier de Vincent Josse, demain de 15h à 17h.
C'était une très belle émission. Oui.
Ouais. Avant de vous retrouver, Loïc Prigent, pour évoquer la mode et le cinéma, on écoute ces 5 garçons dans le vent, et par parenthèse très bien lookés, Feu Chatterton, Monde Nouveau, on en rêve tous.
Sur le pays, très chaudement, dans un bain de foule dévot, à moitié épaillie. On se mouillait mollement, la glace fondait dans les spritz, c'était à n'y comprendre rien. Tout le monde se plaignait en ville du climat subsaharien. On n'avait pas le moral, mais l'on répondait bien à tous les mots, les traits d'esprit. Serveur central. Sous nos yeux comme une publicité qui nous masque le ciel. Des millions de pixels pleuvaient sur le serveur central.
L'ensemble est ébloui.
Qu'est-ce que je vous avais dit, Maggie? Vous êtes absolument divine. Qu'est-ce que vous ressentez?
C'est merveilleux, mais ce n'est pas moi.
Les cheveux, la robe, quelle perfection! Vous voyez ce dont nous sommes capables, mon enfant. Vous ne regrettez plus d'être avec nous maintenant.
C'est vrai, je vous
Paul Duval présente sa collection vendredi. La veille au soir, j'organise une réception pour vous présenter à la presse. Ce sera la chance de votre vie. Ce sera votre soirée. Vous serez présente, j'espère.
Oui, bien sûr.
Dick, ça vous laisse une semaine pour la photographier dans les robes de la collection. Je veux du sensationnel. Faites-moi des clichés fascinants.
Une jolie vendeuse de livres de Redburn devient une icône de la mode grâce à un photographe, Fred Astaire, à Paris, capitale de la mode, drôle de frimousse, funny face, Stanley Donen, 1957. Ce film, Loïc Prigent, vous l'avez découvert à 15 ans. Il dépeint de façon très frivole, avez-vous dit, la rédaction d'un magazine de mode. Et c'était déjà les coulisses pour l'adolescent que vous étiez.
Et l'extrait qu'on a entendu, c'est le bruit qu'il y a constamment dans ma tête.
Ah bon?
Ah oui, oui, vraiment, j'espère que je vis dans ce film. C'est l'idée.
Mais ça a été un départ, une vocation, une petite note tout d'un coup que vous avez entendue, différente des autres.
Ouais, et puis j'aime bien l'idée que ça parle de Paris, que ça parle d'un Paris rêvé, d'un Paris un peu fantastique, un Paris qui assume l'absurdité. Fred Astaire qui joue le rôle de Richard Avedon,
oui.
Le photographe,
oui.
Richard Avedon, oui. Qui pourrait être inspiré un quatuor à cordes présent dans le studio quand il fait ses photos, ce genre de choses. La victoire de Samothrace qu'on a vu dans le défilé Vuitton la semaine dernière à Paris, ouais. D'ailleurs. l'intérieur, qui est photographié comme ça dans un Louvre qu'on vide absolument de tout pour que une robe puisse puisse avoir lieu.
Hepburn, que l'on retrouve 4 ans plus tard en 1961, cette musique est merveilleuse en diamant. Sur canapé, Stanley Donen, Breakfast at Tiffany's. Et cette ouverture inoubliable, elle sort d'un taxi au petit matin, 5e avenue New York. Et dans cette robe noire, la plus célèbre petite robe noire de l'histoire, Givenchy Black Italian Satin Evening Gown. Sage et classique de face, audacieuse et sensuelle de dos avec un jeu de découpe aux épaules. De longues en noir, 5 rangs de perles, un diadème dans son chignon et des lunettes de soleil oversize. C'est le look total, c'est Givenchy. Donc c'est la première association actrice couturier à l'écran.
Ils deviennent vraiment amis à l'issue ou avant ce film. Je pense déjà avant ce film.
Oui.
Et elle pose pour lui gratuitement pour un parfum. Ce qui crée un précédent
qui s'arrêtera là.
Oui, et là mais qui crée l'idée de la star qui s'associe vraiment à un parfum et tout ça.
Et Géry et tout ça.
Et c'est vrai que elle reste hyper tutélaire. C'est beau comme mot, hyper tutélaire chez Givenchy. Et je crois que même Givenchy ouvre une marque où les créateurs se succèdent. Et je crois qu'à chaque fois qu'il pose candidature, ils mettent au début du cahier de présentation Audrey Hepburn, à tel point que je crois qu'à un moment donné, pour être embauché, fallait pas mettre... Ricardo Tisci avait été embauché chez Givenchy parce qu'il n'avait pas mis Audrey Hepburn dans son dossier de présentation.
Mais c'est vrai que c'est l'ancêtre de la petite robe noire, cette robe noire-là.
Ouais, il y a celle de Chanel, l'invente vers 25, et on la compare à l'époque à une Ford T, de façon un peu méchante, je pense. Et mais c'est vrai que la Ford T de Chanel, elle continue d'avoir lieu plein de fois et Givenchy l'a refait hyper bien à ce moment-là et d'autres continuent et ça reste une robe noire nécessaire qu'ils nous refont à chaque fois.
Oui. Le défilé, bon, la Fashion Week vient de se terminer, c'est le moment où la mode prend la parole un petit peu et se met en scène. C'est un peu comme un film, un défilé.
Oui, c'est comme un film. Et puis la Fashion Week est comme un festival de Cannes.
Oui, avec tapis rouge, stars au premier rang.
Beaucoup de stars, beaucoup de que portez-vous, des questions qu'on pose sur les tapis rouges.
Oui, qu'est-ce que vous avez pensé du défilé après?
Oui, voilà.
Elles répondent toutes la même chose.
Non, figurez-vous que non.
Non,
oui, il y a des amazing qui se perdent.
Oui.
Mais on a par exemple Catherine Deneuve quand elle vient à un défilé, elle est d'une pertinence assez hallucinante. Catherine Deneuve qui a réussi une fois quand même l'exploit hallucinant. Je la vois aller voir Nicolas Jusquer à la fin d'un défilé Vuitton et elle lui dit c'était de l'anguille, non, la matière des mini jupes. Comment on reconnaît de la peau d'anguille sur une jupe qui est passée en 14 secondes devant vous? Ben Catherine Deneuve, elle y arrive. Et pareil, j'étais une fois à la fin d'un défilé de Jean-Paul Gaultier Couture, elle décryptait les matières implacablement bien, vraiment. Elle est une chroniqueuse de mode assez aguerrie, par exemple, elle.
Ouais.
Mais plein d'autres gens, Marina Foy, c'est génial d'interviewer après un défilé.
Les inspirations d'un créateur, il les pose sur un tableau, le mood board, Loïc, le tableau des humeurs, des tendances. C'est un tableau sur lequel on met tout ce qu'on a envie, tout ce qui nous vient en tête. Alors donc, il peut y avoir des photos d'actrices sur ces mood boards.
Très souvent des photos d'actrices, ouais.
Oui.
Il y a des photos d'actrices qui sont devenues, lieu commun est pas joli, mais il y a vraiment des actrices qui reviennent tout le temps sur les mood boards, ouais, ça c'est clair.
Comme.
Et qui inspire tout le temps. Bah, je crois que Jane Birkin, il y a un trio, Jane Birkin, Charlotte Rampling, Catherine Deneuve, c'est les trois piliers de...
Mais à chaque fois, dans des films différents? C'est-à-dire dans des costumes, dans des poses, dans des personnages différents?
C'est leur corps qui intéresse.
Ça peut être Jane Birkin, ça sera dans des films de Comment je t'aime moi non plus.
Oui.
Catherine Deneuve, très souvent dans le film, c'est Les Prédateurs, c'est ça, de Ridley Tony Scott?
C'est Tony Scott.
Frère. Donc dans un look assez 40 avec elle a pas un turban, mais elle a une coiffure assez spectaculaire qui a été reprise 100 000 fois. Et un tailleur un peu au carreau, comme on dit, carré, qui a été hyper repris par Alexander McQueen, par exemple, et après par ses petits camarades. Et Charlotte Rampling, ça va être portier de nuit, ou alors des images d'elle dans la rue, très chic et tout ça, quoi.
C'est pas des femmes très rondes, tout ça, hein.
Ah non, la mode, la mode, jusqu'à ce moment T, 2021, aime beaucoup des corps féminins avec des épaules assez carrées et très peu de poitrine. C'est en train d'évoluer.
La dernière Fashion Week du 1er au 10 mars et ses tendances cinématographiques donc a commencé par celle d'un film de 1996 qui s'appelle Clueless avec Alicia Silverstone qui joue un peu la vedette du lycée UP, ce collège UP de Beverly Hills. Tiens, on va écouter un petit morceau du film.
Mr. Hall was way harsh. He gave me a C minus.
Well, he gave me a C, which drags down my entire average.
Hello, there was a stop sign.
I totally paused. You tried driving in platforms.
Oh, should I write them a note?
Cher's got attitude about high school boys.
It's a personal choice every woman has got to make for themselves.
Cher is saving herself for Luke Perry.
Cher, you're a virgin?
I mean, I'm not prude. I'm just highly selective. I mean, you see how picky I am about my shoes, and they only go on my feet.
Louis Prigent, vous disiez, elle se fait, dans Clueless, elle se fait agresser, et alors?
La peau, elle se fait agresser à main armée, et le mec lui dit, maintenant mettez-vous à terre, elle lui dit, mais non, je suis en Alaïa, vous êtes dingue. Et je la comprends tellement.
Oui, tellement. Elle a 64 tenues dans le film.
64?
Ouais, c'est dingo.
Seulement?
Ouais,
ressenti 124, 260.
C'est la fashion victime du collège. Non, mais surtout, il y a une tenue qui a retenu l'attention de tout le monde, et encore maintenant incroyable en 2021. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce petit tailleur?
Ben, c'est un petit tailleur un peu tartan, un peu tweed, dans les,
tartan, assez, je veux dire écossais un peu.
Tartan écossais, ouais. Chatoyant, un peu rouge et blanc, c'est ça. Et il y a une,
donc,
il y a crop top, il y a jaune, il y a rouge, elle en a plusieurs versions.
Ouais,
dans
mais
le
c'est le jaune qui revient beaucoup.
C'est le jaune qui revient beaucoup. Ouais. Et une jupette, on va dire, plissée. Écossais.
Plaqué en haut et après des petits plis.
Voilà.
Et qui arrive à mi-cuisse.
Et ou plus court si on a envie, oui. selon l'humeur.
Plus court que mi-cuisse.
Et c'est plus court que mi-cuisse. Oui, bah oui, ça s'appelle la mode. Hein.
Oui, oui, non, j'entends. Mais je me suis.
C'est l'été. En plus, c'était les collections d'hiver, donc c'est bien. Mais c'est vrai que j'ai eu plusieurs créateurs devant ma caméra qui me montraient cette jupette et qui me disaient, c'est inspiré par Clueless. Alors,
il y a Alexander Wang, incroyable, qui dit que c'est son film préféré au monde, Clueless.
Mais je crois que c'était le film préféré au monde de cette saison de Ludovic de Saint-Cernin, qui est un créateur très talentueux, de Nicolas Le Courmention, qui est une créatrice vraiment géniale, et qui me l'a montré vraiment quasi tel quel, chez Alexandre Matussi, sa marque Ami aussi. Et c'est vraiment parce que...
Qu'est-ce qui leur parle? Qu'est-ce qui fait ça?
C'est sur Netflix. C'est arrivé sur Netflix, et il y a cette espèce de truc de la mode, de s'inspirer collectif. De ce qu'ils ont devant les yeux, de façon...
Parce que des millions de gens vont regarder, surtout. Alors.
Oui, aussi.
Vous ne nous diriez pas qu'il manque d'imagination, par hasard, ou de diversité?
Non, mais ils voient les mêmes choses que vous et moi, et il y a cette espèce de chose d'inspiration empirique, opportuniste, que je trouve toujours très sympathique, qui fait que c'est dangereux aussi, parce que quand les musées étaient ouverts, très souvent, on avait, quand il y a une rétrospective Vasarely à Beaubourg, on se retrouvait avec 5 collections vasarélienne, quoi. Ouais. Ça, c'était assez drôle. Jusqu'à avoir la même robe, parfois.
C'est déprimant, dans le cas présent.
Voilà. Peu, non, mais là, j'aime bien Clueless, j'aime bien comme inspiration, ça me plaît bien, moi.
Ouais, et il y a des grandes choses.
C'est un très bon film.
Oui, il y a
des... Franchement, c'est un bon film.
Je ne vais pas surenchérir.
C'est votre émission.
Il y a des grandes chaussettes blanches, très hautes aussi.
Oui, c'est vrai.
Des petites escarpins blancs. T-shirt blanc et twinset jaune en dessous aussi.
Magnifique.
De la couleur de tailleur. Une autre tendance, Loïc Prigent, c'est les couleurs vives, le rose et le mauve. Et l'esprit Walt Disney, l'occasion d'écouter ce merveilleux extrait de Cendrillon et sa marraine qui la transforme pour aller au bal.
Hop, en voiture, ma chérie, il n'y a pas de temps à perdre. Mais... Non, ne me remercie pas.
Non, ce n'est pas ça. Je veux dire, enfin si, mais... Vous ne trouvez pas que ma robe...
Oh, Zuzu, elle est charmante, très charmante. Ah, juste ciel, ma chérie. Tu es en guenille. Nous allons arranger ça avec ta taille et la couleur de tes yeux. Il faut quelque chose de simple, mais d'un peu audacieux. Oh, ça y est, je crois que j'y suis. Il faut une robe d'Angandi. Bipidi, bipidi, bobidi, bipidi, bobidi. Boum!
C'est Disney, alors?
Il y a de l'argent de vie hein, cette saison. Et Victor Vincenzo, créateur assez génial, ancien collaborateur proche de Jean-Paul Gaultier. Quand Jean-Paul Gaultier part à la retraite, il dit bah moi je veux continuer. Donc il lance sa marque à cette occasion-là. Et Victor Vincenzo, il a des espèces de couleurs un peu bizarres dans sa collection. Je lui demande d'où ça vient et il me dit ah ben c'est les couleurs des effets spéciaux dans Cendrillon c'est des fées ouais, lui font sa robe.
C'est ma reine.
Donc tout d'un coup et ça c'est comme Netflix Clueless. Là c'est Disney+, nouvelle plateforme, 70 balles par an. Ils se sont abonnés à Disney+.
Ouais, mais c'est aussi leur enfance qui remonte, non?
C'est leur enfance qui remonte, évidemment. Mais il y a aussi, enfin, il me semble que Disney+ nous a amené pas mal de collections inspirées par Disney. Et jusqu'à la panique totale, c'est-à-dire qu'il y a une maison de mode parisienne qui s'est inspirée de Marie Blair, qui a participé, je crois, à cette scène, qui est une illustratrice, dessinatrice de Disney, à fort tempérament, il me semble. Et donc, cette maison se met à s'inspirer de Marie Blair en se disant, c'est génial, hein. Donc, je crois qu'ils font des robes démentes avec des châteaux, des choses comme ça, et tout ça. Et arrive le défilé, l'avocat appelle, enfin le service juridique de la maison appelle et dit « Mais votre Marie Blair, là, ce serait pas Disney par hasard ?»« Ben oui, c'est Disney !» Et alors, ben, vous allez m'enlever ces robes tout de suite. Et donc, il y a une maison parisienne qui a dû enlever 15 robes, ce qui est beaucoup. Hein. Enlever 15 robes au dernier moment, c'est comme un réalisateur à qui on dit d'enlever...
La moitié de son film.
Un petit peu, ou un petit quart, quoi.
Ouais. On est à la frontière entre l'inspiration et le plagiat, quoi. C'est ça le problème, quelque part.
Ben c'est que c'est on entre dans un territoire qui dans le cas de Disney juridiquement balisé on va dire poliment.
Est-ce que ces mood boards, ces tableaux d'inspiration, ils peuvent se voler, ils peuvent s'espionner entre créateurs?
Ils s'assument assez. On les voit maintenant, on les voit souvent à la fin des défilés. Par exemple, Pier Paolo Piccioli qui est le créateur chez Valentino, Maria Grazia Chiuri qui est chez Dior. Ont souvent ce mood board à côté d'eux au moment des interviews de fin de défilé pour que les journalistes pigent ah ok c'est Martha Graham et mélangé à Caroline Bessette Kennedy mélangé à Claire Bretéché, j'ai vu ça cette saison, il y avait Claire Bretéché d'épinglé mélangé
c'était une belle femme avec super look
ouais j'étais content de voir Claire Bretéché débouler sur les mood boards, je l'avais jamais encore remarqué.
Ah c'est vrai,
et cette saison c'était Claire Bretéché débarque, c'était cool. En t-shirt, frontal, comme ça.
Un autre rose, pâle celui-là, celui de la doublure du tailleur Chanel que porte Romy Schneider dans Bocasse 70, et ce sketch signé Luchino Visconti, qui s'appelle Le Travail, elle incarne Poupée, la femme d'un jeune aristocrate oisif, qui a décidé pour subvenir à leurs besoins de travailler. Un huis clos dans un décor sublime, on va écouter quelques instants.
Sono rimasto un'eternità in contemplazione davanti a un muro.
Qu'est-ce qui vous fait rire?
C'est l'intérieur de ma tête aussi. Un muro bianco. Ça parle comme ça dans ma
tête.
Tutto
bianco.
Alors, c'est quand même, cette scène, c'est une ode à cette tenue parce que on est dans un décor sublime, des couleurs automnales. Et ce tailleur qui ressort, de toute façon, ce n'est que elle dans son tailleur pendant toutes ces minutes qui parle. Ce tailleur bleu Chanel doublé de rose. Un corsage gaufré rose. En fait, c'est un total look Chanel, des escarpins, Loïc Prigent, jusqu'à la petite toque.
Fait par Gabrielle Chanel en personne, essayé sur Romy Schneider en personne, donc c'est la haute couture, quoi. Et Virginie Viard, qui est aujourd'hui à la tête de Chanel, obsédée par ce tailleur, qui le refait à l'identique, qui le repropose à Sofia Coppola avec qui elle collabore, et Sofia Coppola qui débarque avec le tailleur tel quel de Romy Schneider. Et c'est vrai que ce tailleur, il est assez impeccable toujours, quoi. Il est toujours frais.
Petite veste, quatre poches, pas épaulée, jupe droite.
Et le fameux galon. Le galon Chanel, tweed sur tweed, assez impeccable. Et du coup, ce tailleur refait pour Sofia Coppola se retrouve aussi dans les collections et continue d'alimenter en fait l'imaginaire de Chanel et des tailleurs Chanel, quoi. Mmh. Qui n'a que besoin que d'aller à la source, à cette source-là, quoi, pour rester impeccable.
Elle a 23 ans, Romy Schneider. Pourquoi il reste toujours dans votre tête ce film et cette séquence, qu'est-ce qu'elle a d'éternel en fait?
Je ne sais pas pourquoi, ça reste frais, et cette espèce de je me jette dans le canapé. Oui. Et je...
Canapé sur lequel il y a de la fourrure doublée rose comme le tailleur.
Oui, bah, je pense que Visconti est un décorateur aussi.
Ouais.
Il est aussi maquilleur, il est aussi coiffeur, il est aussi, enfin, c'est un grand directeur artistique, Visconti.
Et tous les bijoux sont Chanel aussi, tout ce qu'elle porte. C'est fou, c'est un défilé cinéma, quoi.
Mais les cinéastes aimaient bien Chanel, et aiment bien Chanel pour le côté, Almodovar l'a refait, le coup de l'actrice totalement chanelisée avec Victoria Abril dans Talon Aiguille,
oui.
Quand elle attend à l'aéroport, et elle ouvre son sac et on voit ce sac rouge Chanel, enfin l'intérieur grenade, oui. des sacs, oui. Chanel. Et c'est une marque qui est très, très cinégénique.
Vous qui avez beaucoup connu, côtoyé Lagerfeld, vous parliez de cinéma tous les deux? Il l'évoquait,
il avait des lubies, il aimait beaucoup, quand il avait fait le film de, il avait fait un film avec Weber où il devait jouer un rôle, il refusait qu'on lui écrive les dialogues, il devait improviser, et je crois qu'ils ont fait 26 prises, et 26 prises, il a dit des dialogues différents. Ça, j'aime bien l'idée. Genre, vous me ferez pas dire votre dialogue. Daniel Thompson qui, tu vois. Mais son film fétiche, c'était Les Dames du Bois de Boulogne.
Oui, bien sûr.
Ce que j'adore, et du coup, c'est lui qui m'a fait regarder Les Dames du Bois de Boulogne, qui est quand même un bon film. Ouais. J'étais d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui. Qui est un film de... C'est de qui? C'est de
Bresson.
Robert Bresson.
Ouais. Robert Bresson. Ouais.
Et Luc Bresson, c'est ça?
Non.
C'est le genre d'erreur que je pourrais faire. Et ouais, non, il aimait. Oui, je crois qu'il aimait bien le cinéma, mais je suis pas sûr que c'était le plus cinéphile.
Non.
De nos créateurs.
Et puis, il se serait pas reconnu de référent cinéma, tout venait de lui, plutôt, ou de la littérature,
il était un homme de l'œuvre totale, l'œuvre d'art totale. Tout est œuvre d'art, et donc, il peut être inspiré par une émission de télé-réalité, comme par, absolument tout, quoi.
C'est un peu l'équivalent de Tavernier, hein, dans le cinéma, lui, dans la, bah, je veux dire, cette connaissance encyclopédique qu'il avait.
La bibliothèque qui brûle quand il disparaît.
Oui, c'est ça.
Mais ce serait qui le couturier le plus cinéphile, d'après vous, alors?
Il me semble que Jean-Paul Gaultier est vraiment obsédé par le cinéma. Oui. Il y a des défilés où il y a un défilé que j'avais filmé vers 2009 ou 2010 où la mariée est donc blanche et sur laquelle on projette sur sa tête, on projette plein de visages de cinéma. De Marlène Dietrich à Daniel Darieux et tout ça. Et il cite tout le temps le cinéma comme quelque chose à la jeunesse de son envie de mode.
Une autre icône de mode, vous en parliez, c'est la grande, c'est la sublime Catherine Deneuve, qui lit la mode de Loïc Prigent sur Arte.
Bienvenue dans l'asile psychiatrique à ciel ouvert, le mieux habillé du monde. C'est quoi comme tendance? Stupide. C'est qui la styliste? Une vieille copine aveugle?
Elle le dit bien.
La collection était hyper pute. Je dis pute, mais c'est pas péjoratif, hein, dans ma bouche. C'était effrayant. J'adore cette mannequin, on dirait qu'elle va parler. On a une telle liste d'attente pour les stagiaires qu'ils ont 45 ans quand ils commencent chez nous. Eh ben oui. Elle va manger au flore. Ça lui donne l'impression de lire. C'est tellement moche, on dirait une fringue de l'an prochain.
Deneuve qui a accepté de lire, c'est du caviar, ça, toutes ces répliques que vous glanez. C'est quoi la réplique du jour, si vous me disiez tout à l'heure,
je viens de lire un article pas mal ce matin et on demandait à une dame qui n'avait manifestement plus de recul sur rien, quels étaient ses essentiels de vie et tout ça. Et elle disait, cette année, j'ai découvert la méditation et redécouvert le caviar.
Pardon.
Elle était bien. Elle m'a beaucoup plu.
Deneuve-Légérie d'Yves Saint-Laurent, qui l'habillait au cinéma, et notamment dans ce film, Belle de jour, Louise Buñuel.
Palace ?
Tu y es, la belle femme. Il n'y a rien acheté, tous les morceaux sont bons.
Vous n'y pensez plus, je vous dis, elle est bien trop convenable.
Mais c'est justement pour ça, ma cocotte.
Je suis là, alors, avant qu'il crépousse. Quel phénomène. C'est joli, ça ? Il faut mettre une robe qui s'enlève en deux temps, trois mouvements. Pas vrai, monsieur Adolphe?
Ah non, je t'en prie. Moi, je la trouvais patente avec sa petite robe. Effet distingué, c'est tout ce que j'aime.
Depuis le temps que vous me promettez un cadeau, j'aimerais une chose comme ça.
Ah, et oh, je suis pas Rothschild, ma poule.
Hélas. Oh, c'est bien coupé. T'as vu les finitions? C'est formidable.
Oh, bah, quand on a les moyens, c'est facile de bien s'habiller.
Et la classe, ça s'achète pas, la classe.
De neuf belles de jour, c'est Séverine, l'héroïne de Joseph Kessel, qui vit une sexualité clandestine hors mariage. J'ai bien aimé ce qu'a écrit Marie-Dominique Lelièvre sur Yves Saint-Laurent, puisque c'est détenu Yves Saint-Laurent, elle écrit « Le masochisme de l'héroïne qui s'épanouit dans la brutalité, la fange, les humiliations, lui est familier. » À lui, Yves Saint-Laurent, c'est fou, hein. C'est-à-dire qu'il y a une connexion assez dingue entre l'intime de l'un et de l'autre, notamment dans cette robe, un détail incroyable, cette robe chemisier en jersey beige clair. C'est dans cette tenue qu'elle rejoint la maison close, à l'intérieur de laquelle il avait cousu un velcro pour la violence des rapports sexuels de l'héroïne.
C'est le velcro Chippendale,
oui, ça. Ben c'est fou, hein.
Pour enlever le pantalon d'un coup.
Et de 9 10, c'est comme s'il m'avait soufflé le rôle en me suggérant un jeu particulier. Quand on dit que les acteurs trouvent leur personnage dans le costume, là, c'est une preuve complètement éclatante.
Ah, c'est génial, je ne connaissais pas l'anecdote.
Et vous, ce qui vous a... Donc, il y a plein de tenues de Saint-Laurent dans ce film, laquelle vous a...
Moi, je suis obsédé par la tenue noire, assez courte, comme une robe chemisier, toute, vraiment noire, satin noir, col blanc, satin blanc, et poignet blanc, blanc. Et robe qu'on revoit, je l'ai vu l'autre jour dans The Voice, sur une candidate, paf, la même.
Ah, c'est vrai?
Ouais, ben, ça avait l'air bien, ça avait l'air d'aujourd'hui. Ça devait pas coûter cher en plus, je lui souhaite. Et c'était toujours impeccable. Elle a été sélectionnée, je crois d'ailleurs.
Truffaut disait sur Saint-Laurent, j'aime beaucoup, il dit c'est le plus cinéphile des grands couturiers, il a compris comment devaient être les costumes de cinéma et a su les imaginer de manière à ce qu'ils soient adaptés au mouvement et au style. C'est un super hommage. Vous l'avez croisé, Saint-Laurent?
Oui, je l'ai croisé. C'était assez, il était très drôle à filmer. J'aimais beaucoup le filmer parce qu'il était. Moi, je l'ai connu dans les dernières années de sa vie où il est vraiment une espèce de monument complètement hallucinant, quoi. Il est une standing ovation permanente. Il rentre dans la pièce, la pièce se lève et l'applaudit, quoi. Le truc insup. Et du coup, il me faisait vraiment rire. J'avais filmé à plein d'ouvertures d'exposition et tout le monde venait le féliciter et il disait et sa mère lui dit quoi? J'en ai marre. Et Pierre Berger lui dit oh, tais-toi, elle est belle ta vie. Et donc c'était assez drôle et tout. Et j'avais filmé, j'avais pas filmé, mais j'avais été présent dans, je m'étais incrusté dans sa loge à la Coupe du Monde de 98 où il est entouré de Catherine Deneuve, Isabelle Huppert. Oui. Et il en a rien à fiche du foot et tout ça. Et le match le prend et à la fin il se lève avec tout le monde. Je sais pas combien de buts il y a eu à ce truc. Et à la fin, c'était assez drôle et je me suis retrouvé à expliquer les règles de foot à des gens de la mode ce jour-là. C'était bien, j'ai expliqué tacler.
Pourtant, il savait
que tacler un zizou.
Eh ben, il y a tacler aussi dans la mode, non?
Ouais,
on se tacle pas mal.
Plus les Italiens que les Anglais, les Français. Les Italiens sont très tacles entre eux. Oui. Armani tape sur Prada, qui tape sur Dolce & Gabbana. Enfin, Dolce & Gabbana surtout tape sur tout le monde.
Ouais.
Ils sont très... Armani aussi, très...
Qu'est-ce qui se passe entre Saint-Laurent et Deneuve? Il y a une alchimie?
C'est elle qui vient le voir, je crois, à l'origine. Et ils ont un rapport... Il me semble pas qu'ils dînent beaucoup ensemble. Il me semble que c'est un rapport de travail et après d'admiration réciproque. Elle vient régulièrement à ses collections de haute couture, donc je pense qu'ils se voient en janvier et en juillet. Éventuellement, elle doit venir aussi, j'imagine, aux présentations de prêt-à-porter, donc ils se voient aussi en mars et en octobre, ce qui fait que ça fait 11 voire 4 fois par an, et je pense qu'ils doivent se voir quand elle a des occasions de première ou de Cannes, ce qui fait qu'au final ils se voient pas mal. Et dans le film, il y a un film sur Saint-Laurent où on voit Mademoiselle Deneuve essayer des vêtements et on sent une vraie familiarité avec les premières d'atelier. Donc je pense qu'elle fait vraiment partie de la maison Saint-Laurent.
Mais dans sa structure de visage parfaite, je sais pas, la structure des vêtements, il y a quelque chose de qui se marie complètement, quoi.
Ben je pense qu'elle a vraiment accompagné depuis ses débuts jusqu'à elle continue d'accompagner la maison parce qu'elle fait la campagne en ce moment et tout ça. Et je crois qu'au-delà des traits du visage, je pense que le personnage de cette femme
libre, qui fume
à l'intérieur
correspond
à ce qu'on estime être l'ADN entre guillemets de la maison Saint-Laurent, c'est-à-dire quelque chose d'assez subversif, de très cultivé, qui fait ce qu'il veut, indépendant.
C'est la femme qu'il a créée, quoi. C'est lui.
Ils s'incarnent l'un l'autre, quoi.
On voit bien dans le.
Il y a une osmose.
On voit bien dans le film de Bonello.
Mais je pense que personne n'a créé Catherine Deneuve, qu'elle s'est créée toute seule.
Non, je dis, c'est la femme que Saint-Laurent, lui, a créée pour sa couture, pour ses collections.
Je pense que oui, il a dû rêver d'elle pas mal de fois.
Il y a une scène pas mal, justement, là-dessus, dans le film de Bertrand Bonello. Vous l'avez vu, le Yves Saint-Laurent de Bonello?
Oui.
Il est assez beau, non, ce film?
Oui, mais j'aime bien le Jalil Lespère aussi. J'aime bien les deux.
Vous aimez les deux.
J'aime bien Charlotte Lebon dans le Jalil Lespère. Je la trouve vraiment bien. Les deux films se complètent bizarrement comme un domino étrange.
Une autre robe. Je montre la photo de notre réalisatrice.
Les auditeurs sont ravis.
Une autre robe. On va essayer de découvrir laquelle.
Venez.
Venez. Tout est dans le venez.
Oui, exactement.
Bonsoir.
Bonsoir.
Le mec s'y sûr du coup.
Ça s'est bien passé, concert.
Ça s'est bien passé.
Concert.
Mes amis viennent de partir. Oui, ce sont d'horribles couches d'eau.
Je pense qu'il y a de l'espace entre chaque ligne de dialogue pour que le public ravale sa salive.
Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Champagne, whisky, cognac?
Moi?
Non, c'est mieux.
Je veux bien un petit peu de champagne. C'est magnifique. Ici.
Oui.
C'est ça, le magnifique dégueulasse. C'est magnifique ici. Le grand blond avec une chaussure noire, un col roulé, des manches longues, une silhouette minimaliste. Rien à l'avant ne pouvait prédire ce qui se passait à l'arrière de la robe portée par Mireille Darc, qui était reprise alors cette saison, ce décolleté hallucinant.
Décolleté ?
Oui,
décolleté de Guy Laroche à l'époque.
Oui, Guy Laroche.
Et
il demande une robe provocante, un seul mot d'ordre, jusqu'où peut-on aller ? C'était ça l'idée.
Magnifique. Il descend, ça descend bien. Ouais. Ai-je bien descendu ?
Oui.
Et ce qui est magnifique, c'est que cette saison, cette robe réapparaît chez Nicolas Le Court-Mention, qui donc fait encore plus descendre la chose, rajoute un string très visible du coup.
Oui, à la place de la chaîne en or, en fait.
Voilà, donc là, il y a un string qui crée vraiment une structure et qui apparemment est une structure à la robe pour que ça ne baille pas, j'imagine. Enfin, oui, que ça ne baille pas, que ça maintienne la chose. Et qui fait porter sur des mannequins en rondeur en plus, et qui dit oui, le string est politique. Oui, montrer ça, se montrer, c'est revendiquer une sexualité ou son corps ou un hédonisme, c'est politique. Merde à la tenue républicaine. Les femmes doivent pouvoir porter ce qu'elles veulent, quand elles veulent, comment elles le veulent, etc. Donc un espèce de discours assez salutaire, j'imagine, en ce moment. Donc cette robe qui devient
Ça s'appelle la robe Mimi.
La robe Mimi qui devient quelque chose de.
On casse un peu le mythe. C'est comme ça que Delon appelait Mireille Darc.
De politique.
D'ailleurs. Oui. Voilà.
Mimi et politique.
Et si on terminait avec cette femme sublime, on n'est pas encore cité, c'est Delphine Seyrig dans l'année dernière à Marienbad.
Je vous répète que c'est impossible, je n'ai même jamais été à Frédéricksbad.
Il insiste, elle s'insurge.
Je ne sais pas de quelle chambre vous parlez, je n'ai jamais été avec vous dans aucune chambre.
Je ne voulais pas vous souvenir, parce que vous avez peur. Ne reconnaissez-vous pas non plus cette photographie?
Delphine Seyrig, d'ailleurs, qui est habillée en Chanel dans Baiser volé, Loïc Prigent.
Ouais, de Truffaut, c'est ça? Oui, qui tient son sac, bien et tout.
Les robes de l'année dernière à Marienbad.
Chanel, Gabrielle Chanel, des espèces de voiles de mousseline, des brocarts d'or. C'est sublime, quoi.
Ouais.
C'est vraiment beau. Et puis ce plan dans le jardin où elle erre dans le jardin, repris tel quel par Karl Lagerfeld, qui recrée ce jardin-là en noir et blanc dans le Grand Palais. Un des plus beaux décors qu'il ait fait. Il a fait des icebergs et des granges et des toutes sortes de choses complètement hallucinantes. Mais mon préféré, c'était la reproduction de ce jardin de l'année dernière à Marienbad, qu'il avait fait avec des femmes comme ça qui d'un coup marchaient plus mais semblaient un peu erratiques comme ça. C'était trop beau.
Il projette parfois des images de cinéma dans ses défilés ou pas?
Pas vraiment, mais Chanel, Chanel est assez fière de son patrimoine oui. cinéphilique. Le défilé d'octobre dernier, donc de prêt-à-porter pour l'été, pour cet été, il y avait les lettres Chanel, C-H-A-N-E-L, en énorme comme le signe Hollywood. Oui. Et il revendiquait vraiment l'affiliation. Et qui est donc l'année dernière à Marienbad, mais aussi Kristen Stewart, par exemple, qui inspire beaucoup Virginie Viard oui. et qui est derrière porte du Virginie Viard pour Chanel. Donc une espèce de comme ça de cercle assez vertueux où et elle est obsédée Virginie Viard obsédée par la nouvelle vague Anna Karina. Ouais. On a vu Anna Karina enfin des avatars d'Anna Karina oui. défiler sur des toits de Paris, des choses comme ça.
Je voudrais vous écouter des heures, mode et cinéma. On va juste signaler que votre livre Passe-moi le champagne, j'ai un chat dans la gorge est sorti en poche. On attend 52 minutes de mode sur TMC. Et puis votre chaîne YouTube qui s'appelle, très modestement, Loïc Prigent. Ouais. Laurent, on va finir avec un cadeau pour Loïc Prigent pour le remercier.
Oui, grâce à l'éditeur, grâce à l'éditeur LCJ, on est très heureux de vous offrir Les Enfants Terribles d'un certain Jean-Pierre Melville. C'est un très très belle réédition restaurée avec un coffret Blu-ray. C'est d'après Cocteau, évidemment. On y entend la voix de Cocteau parce que c'en est le narrateur. Les décors sont signés Jean-Pierre Melville et Émile Matisse.
Ah oui,
mais de qui sont les costumes, Loïc Prigent?
Ben, je sais pas.
Eh bien, ils sont de Christian Dior. Parce qu'il y a plusieurs scènes même qui se passent dans la maison Christian Dior, bien entendu.
Bon, mais
c'est Nicole Stéphane qui les porte. Et le film est aussi est un très beau film plastique, très visuel. C'est pas pour rien que Melville a participé à la construction des décors. C'est l'histoire incroyable d'un frère et de sa sœur dans une relation qui préfigure d'ailleurs un peu celle de Cassavetes dans Love Stream quelques années plus tard. Mais bref, on vous recommande très très chaudement ce coffret de LCJ avec un livret absolument complet de 52 pages sur le film.
Merci beaucoup Loïc Prigent, c'était un bonheur de vous avoir.
Merci
on
à vous.
A commencé avec lui, on conclut avec lui Bertrand Tavernier pour ce générique de fin précédé par un acteur qu'il aimait beaucoup, Nils Arestrup. Au revoir.
Au revoir.
Il est enthousiaste.
Oui.
Il lance des cuillères d'enthousiasme à ses acteurs et ça procure une grande énergie sur le plateau. Je crois qu'on a tous un grand respect, une grande admiration pour Bertrand. Donc on se sentait bien dans ses mains, on se sentait choyé. Voilà, donc c'est un homme extrêmement encourageant, mais aussi exigeant, hein, qui c'est pas non plus la foire, tout ça. Mais oui, il est comme il est, tellement humain, tellement attentif aux autres, tellement soucieux des autres, que voilà, on se sent bien avec lui.
C'est une émission inspirée par tous les films de cinéma. Il y a des réalisateurs et des acteurs. Il y a aussi des scénaristes et des chefs opérateurs. Les prises de vue sont des prises de son. Sporto Cantès a écrit la musique du générique. Les morceaux ont été choisis par Muriel Pérez. Pauline Chauvet s'est occupée de la préparation. C'est une émission réalisée par Anne Weinfeld. Elle est produite et présentée par Christine Masson et Laurent Delmas, et moi, Bertrand Tavernier, j'y étais.